La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un monde.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Par le regard très neuf d'un grand artiste, plusieurs centaines d'œuvres ont été rassemblées, disposées, installées dans le musée des Beaux-Arts de Nantes sous le titre « Archipel, fonds de dotation Jean-Jacques Lebel ». Ensemble, elles témoignent d'une pulsation électrique très particulière. On pourrait dire qu'elles sont mises en liberté, susceptibles dans ce contexte d'atteindre leur pleine vigueur et leur plein effet, comme si une sorte de pensée sauvage, soudain, était visible. Artistes connus et inconnus, grands poètes ou marginaux, africains ou américains, ou roumains ou français, anciens ou modernes, témoignent du désir de celui qui patiemment et passionnément les a rassemblés, de rendre justice à leur volonté de briser les règles, de faire exploser le langage, de peser sur le réel, de contester les autorités, d'agir selon la puissance du désir. Jean-Jacques Lebel, en artiste, a rassemblé ses œuvres de ses pairs qui expriment ensemble les engagements admiratifs, politiques, affectifs, esthétiques qui l'ont toute sa vie mû dans son action et ses œuvres. Jean-Jacques Lebel, artiste, écrivain, commissaire d'exposition, activiste, traducteur, poète, chercheur, collecteur, passeur de Hugo à Artaud, du cadavre exquis au Happening, de Duchamp à Hérault, de Louise Michel à Picabia, de Polyphonix à Gerasim Luka, des Barricades à Apollinaire, Jean-Jacques Lebel, sous le signe de la multiplicité constitutive de l'être, nous propose cette grande exposition au Musée des Beaux-Arts de Nantes, qu'il préférera sans doute appeler un montrage. Pour en parler, Jean-Jacques Lebel lui-même. Bonjour Jean-Jacques, vous allez bien ?
Bonjour, très bien, oui, merci.
Et cher Jean-Jacques, vous êtes accompagné par Cécile Bargue, qui est la co-commissaire avec Katel Jaffrès de cette exposition. Cécile, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une spécialiste de Dada, vous êtes une grande historienne de l'art. Vous avez en ce moment une exposition à Saint-Étienne, vous êtes la commissaire à partir de la collection. Et vous aviez fait, il y a 3 ans, je crois, cette très intéressante exposition sur... un des amis de Jean-Jacques Lebel, si je puis dire, au sens spirituel, en tout cas, Raoul Haussmann, et qui était donc au musée du Jeu de Paume. Jean-Jacques Lebel, j'ai utilisé ce mot « montrage » parce que vous l'utilisez vous-même parfois. Qu'est-ce que ça veut dire, un montrage, par rapport à une exposition ?
Ça veut dire, en gros et en succinct, qu'on en a marre des expositions. On en a marre de ces manifestations soporifiques où les œuvres d'art sont accrochées comme des chaussettes sur une corde à linge, d'une façon linéaire, ennuyeuse, et qui éteignent le feu de l'art. Et montrage, c'est un terme qui a été forgé par le peintre et cinéaste Robert Lapoujade, et qui a été repris par mon ami Gilles Deleuze, et qui est un jeu de mots sur « montrer », est monté comme un montage cinématographique. C'est-à-dire que nous cherchons, et je crois que le travail de Cécile et Katel va le démontrer très largement, nous essayons de faire que les œuvres discutent entre elles, dialoguent entre elles, se transforment l'une par l'autre, l'une avec l'autre, l'une contre l'autre, et qu'il y ait un discours qui soit polyvalent, polytechnique et polysémique entre les œuvres. C'est-à-dire que tout sauf l'exposition, n'est-ce pas ? Je crois que dans les musées, dans les galeries, un peu partout, on assiste à une espèce d'hyper marché, n'est-ce pas, tout est rangé dans des sections comme un hypermarché, comme un prix unique. Il faut faire exploser tout ça. Et pour faire exploser tout ça, nous avons cette technique du montrage et cette volonté de faire que les regardeurs, les fameux regardeurs que nous sommes tous et toutes, puissent faire leur travail tranquillement, de transformer leur regard. Parce que le regard est un travail. Et nous commençons ce travail avec un montrage.
Voilà. Alors Cécile Bargue, ce montrage que vous organisez avec Jean-Jacques Lebel à partir de sa vision explosante, explosante pas fixe, explosante mobile, qu'est-ce qui se passe qui nous change d'une exposition? Qu'est-ce que il nous fait vivre? Comment vivre l'intensité que cela signifie et en quoi ça répond à la personnalité, l'itinéraire particulier de ce grand témoin, de ce grand acteur de ces dernières années, de ce fin de XXe siècle, début de XXIe siècle, donc Jean-Jacques Lebel.
Eh bien, dans l'exposition, donc, on a essayé de faire une sorte de portrait du fonds de dotation, Jean-Jacques Lebel, et dans le fond, il
c'est
y a...
Quoi, c'est quoi ce truc, un fonds de dotation?
Alors, le fonds de dotation a été créé en 2013, et il conserve les œuvres qui étaient autrefois la propriété de Jean-Jacques Lebel, c'est-à-dire qu'il s'est dessaisi des œuvres, il les a déprivatisées selon son terme.
C'est pour déjà lui, c'est de l'anticapitalisme.
Tout à fait. Je parle
ça
à sa place.
Pas,
il est à ma droite,
pareil.
Mais c'est un geste absolument anticapitaliste. Sa volonté était, je le cite, de sortir du marché de l'art. Et donc, les œuvres du fonds, il y en a actuellement un millier, sont inaliénables, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus, on ne peut plus les vendre, quoi. Elles constituent un ensemble. Et nous avons essayé de faire le portrait de cet ensemble, qui est exceptionnel à bien des égards. Ce qui m'a énormément plu, personnellement, c'est la place qu'il réserve aux artistes qui ne rentrent pas dans les catégories généralement admises, c'est-à-dire, voilà, c'est les gens qui dépassent, et en fait tout le monde dépasse, si vous voulez. Donc je pense à des artistes qui ont été autant écrivains que plasticiens, l'un et l'autre, tout autant, vraiment pleinement dans les deux pratiques. On pourrait citer alors Victor Hugo, qui est un dessinateur magnifique, et en fait... presque tous les grands artistes ont eu des pratiques multiples et aussi des identités multiples. Et ça, pour moi, c'est un point important de l'exposition. C'est-à-dire qu'on montre, on réunit des facettes qu'on doit considérer absolument ensemble et que parfois, il est vrai, dans un cadre institutionnel, on peut avoir tendance à, en quelque sorte, saucissonner. C'est-à-dire que, par exemple, on peut s'intéresser... À Picabia, à l'œuvre plastique de Picabia, quand Picabia est aussi un écrivain absolument hors pair, et tant d'autres. Vous parliez de Haussmann, alors Haussmann, c'est l'archétype de ça.
Alors c'est curieux, Jean-Jacques Lebel, j'ai l'impression que la poésie, la relation au langage est très structurante de votre pensée poétique.
Oui, c'est très juste. Il y a la pensée plastique, la pensée picturale et la pensée poétique. Sont difficiles à distinguer les unes des autres. On disait au XIXe siècle, en parlant par exemple de William Blake, un autre double ou triple...
Inclassable également, ouais.
Totalement, il n'y a que les inclassables qui m'intéressent. Les classables ou les classés, ils sont déjà casés. C'est ceux qui et celles qui ne rentrent dans aucune case qui m'intéressent. D'ailleurs, vive Victor Hugo, c'est grâce à Victor Hugo qu'on s'est connus.
Oui, exactement, à Venise, c'était en 94, je crois, ou 13.
Oui, j'avais organisé une grande exposition de Victor Hugo au musée d'art moderne.
Dieu sait que ça a eu des conséquences, parce qu'on ne se doutait pas, enfin on se doutait, quelques-uns savaient que Victor Hugo était un grand plasticien, mais tout le monde savait que c'était un grand artiste, un grand poète, un grand écrivain, mais vous avez montré comment il nous concernait du point de vue plastique.
C'est très intéressant, cette histoire de la classification. C'est comme si l'administration générale des pompes funèbres décidait de ce qu'était de l'art ou pas de l'art. Alors, ce qui s'est passé quand Victor Hugo est mort, c'est qu'il a donné tout ce qu'il y avait chez lui, les manuscrits, les dessins, tout, à la Bibliothèque nationale de France, à son époque. Alors il y a un clerc de notaire qui a été chargé de tamponner les dessins. Ce qui fait qu'il faisait ça en regardant par la fenêtre, et il y a des tampons de la BN au milieu des dessins, quelquefois, n'est-ce pas ?
Alors, il en aurait fait quelque chose, Victor Hugo lui-même.
Certainement. Et donc ça a été mis et rangé dans une bibliothèque. Donc dans une bibliothèque, il y a des livres, il y a des manuscrits, il n'y a pas d'art. Hein, l'art, c'est pour les musées. Ce saucissonnage dont Cécile parlait à l'instant était à l'œuvre. C'est-à-dire que on le rendait, Victor Hugo, invisible du fait qu'il était caché dans le tréfonds d'une sorte d'enfer de bibliothèque. Et il a fallu le faire ressusciter, le désenterrer, et afin qu'on puisse le regarder enfin. C'est pour ça que je l'ai montré au musée d'art moderne de Venise, en disant « Victor Hugo, pittore ». Vous sonnez sur le pont de l'Académie, ce magnifique pont en bois qui mène au musée de l'Académie à Venise. D'un côté, il y avait Victor Hugo, pittore, et de l'autre côté du pont, il y avait Marcel Duchamp. Car exactement en même temps, au Palazzo Grassi, il y avait l'exposition Duchamp, qui se regardait de part et d'autre du Grand Canal.
En souriant.
C'était assez sioux, hein.
Mais pourquoi vous nous dites que Victor Hugo est, au fond, un prémisse de l'art moderne? Pourquoi vous lui attachez cette importance en tant qu'artiste plasticien?
Parce qu'il savait pas peindre. Il n'est jamais passé, monsieur le directeur, dans une école des beaux-arts.
C'est-à-dire
qu'il a réinventé la peinture à partir de rien, parce qu'il savait rien faire. Il a eu quelques tuyaux de Delacroix, de Constantin Guis. Mais son idée, c'était quand il a dessiné les travailleurs de la mer, illustré son propre texte, il a pris une feuille, il l'a plongée dans un seau d'eau et il a essayé de reconstituer physiquement la tempête sur le papier. Il a attaqué le papier avec de l'encre, avec ses ongles, avec la barbe ou la pointe de la plume. Et finalement, à la fin, il a pris une tasse de café, il a jeté la tasse de café sur le papier. Vers 1855, 56, quand il était en exil à Guernesey, c'est-à-dire qu'il a inventé la peinture gestuelle.
Oui.
L'action painting, la peinture action.
Mais en faisant en même temps une sorte de plongée psychique.
Bien entendu.
Parce qu'une sorte de métanoïa, quoi. Quelque chose.
C'est exactement ça. Il s'est plongé dedans, corps et bien. Et donc, c'est pour ça qu'il a inventé quelque chose que les gens ne pouvaient pas voir et ne voulaient pas voir. Les surréalistes sont les premiers à l'avoir revu. Et d'ailleurs, dans le catalogue, il y a une toute petite œuvre que j'ai vue chez André Breton et que j'ai passé des après-midi entières de mon adolescence et de ma jeunesse à méditer. C'est grand comme ça, 3 centimètres sur 3 centimètres. Il y a un trait d'horizon et dessus, il y a un mot, aube. Il a appelé sa fille Aube, et bien entendu, Aube est le titre d'un de ses poèmes. Mais il a inventé la poésie visuelle. Et avant Mallarmé, bien entendu, n'est-ce pas, avant le coup de dé. Et c'est un grand inventeur, parce qu'il ne savait pas peindre, il a été obligé de réinventer non seulement la technique, mais l'investissement psychique de la peinture.
Cécile Bargue, ça a dû être passionnant de travailler sur ce projet avec...
Oui, bien sûr, passionnant, vrai plaisir. Alors, dans l'exposition, nous allons présenter un trumeau de Victor Hugo, qui était dans sa maison de Guernesey, puisque, si je continue sur l'idée d'une actualité d'Hugo, on pourrait aussi le voir, c'est ce que Jean-Jacques Lebel explique dans l'entretien que nous avons réalisé et qui est publié dans le catalogue, comme un précurseur, comme l'inventeur de l'installation, en fait, puisque son bricolage dans sa maison relève de ça. Je crois qu'on... Oui.
Chez Judith, il voyait de chez lui, avec un télescope, il la voyait à côté.
Dites-moi, Cécile, vous qui êtes une spécialiste de Dada, vous avez travaillé là avec un personnage qui est habité par Dada. Est-ce que ça se sent dans l'exposition? Ou est-ce que c'est une erreur de le voir comme cela?
Non, oui, en effet, il y a une trace très nette de Dada dans l'exposition en elle-même. Donc dans l'ensemble qu'on présente, et puis alors dans les œuvres en elles-mêmes, hein, puisqu'on présente des œuvres de Picabia, de Ernst, des dessins, je trouve magnifiques, de Tristan Tzara, enfin la présence de Dada est là, oui, on l'a.
Vous pouvez dire à nos auditeurs qui ne connaissent pas Jean-Jacques Lebel, bien sûr, un peu quel est son lien avec cet univers Dada et surréalisme?
Oui, bien sûr, alors... Je le regarde, je sais qu'il n'aime pas beaucoup qu'on raconte sa vie.
Mais il faut bien y passer.
Ça me fait rougir, ce qu'on ne voit pas à France Culture, que les gens rougissent au micro.
Bien, alors Jean-Jacques, enfant, a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, alors avec ses parents, son père Robert Lebel, qui est l'auteur de la première monographie consacrée à Marcel Duchamp, qui s'intitule « Sur Marcel Duchamp », paru en 1959.
Dont la maquette est de Duchamp lui-même.
Oui, tout à fait. Et qui reste un livre absolument fondamental et qui sera d'ailleurs prochainement...
Oui, on est en train de la rééditer, la version anglaise qui date aussi de 59, qui est donc introuvable.
Donc Jean-Jacques Lebel a bien connu Duchamp depuis son enfance, depuis l'époque où Jean-Jacques Lebel était enfant, jusqu'au décès de Duchamp qui est survenu en 1968. Il a aussi connu Breton. Puisque voilà, ses parents étaient liés au groupe surréaliste en exil. Jean-Jacques Lebel a ensuite fait partie du groupe surréaliste, l'a quitté, enfin on a été exclu à la fin des années 50, pour, je le dis, donc pour anarchisme délirant.
Oui, j'ai
ça continue. C'est encore plus délirant aujourd'hui, d'ailleurs.
Vous n'êtes pas guéri, Jean-Jacques Lebel.
Non, non. D'ailleurs, c'est pas moi, c'est les gilets jaunes. Hein. Nous sommes tous des gilets jaunes.
Sans doute, mais ce qui est assez curieux, c'est que on sent déjà entre l'anarchiste délirant, l'ami des surréalistes, la personne qui a une activité dans le happening. Vous alliez peut-être y venir.
Bah, tout à fait, oui. Donc, en 1960, donc Jean-Jacques Lebel organise le premier happening, bien que le mot ne circule pas forcément à cette date encore tout à fait en
C'était
Europe.
C'était à Venise, là, encore, non?
À Venise.
Oui, le 14 juillet 60. Voilà, oui.
L'enterrement de la chose
de Tinguely.
De Tinguely, oui, tout à fait. Et bien d'autres par la suite.
Et justement par rapport à cela, Cécile, parce qu'on va découvrir Jean-Jacques Lebel, poète, ami des poètes, co-inventeur de polyphonique et de beaucoup d'autres choses. La question de la multiplicité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Jean-Jacques Lebel, je me tourne vers vous, qu'est-ce que ça veut dire accepter en soi la multiplicité? Parce qu'au fond, c'est ça votre vie.
Je crois qu'il y a un grand malentendu dans la civilisation judéo-chrétienne qui veut nous faire croire, à nous tous et toutes, qu'il y a une chose qui s'appelle l'unité du moi, et que la maturité voudrait que nous acceptions les unes et les uns et les autres, que nous sommes un ou une. Et je crois que c'est complètement une fausse base sur laquelle on peut construire une vie humaine. Nous ne sommes pas un ni une, nous sommes tous plusieurs personnes. Nous vivons dans la pluralité de l'être. Et pas simplement parce que nous parlons plusieurs langues, et je plains ceux et celles qui ne parlent qu'une seule langue. Ça veut dire que l'horizon est vraiment très étroit.
Vous, non seulement vous parlez plusieurs langues, mais vous en êtes aussi servi de ce polyglottisme, si je puis dire, pour traduire les grands poètes que vous aimez, et particulièrement la Beat Generation et les autres.
Évidemment, c'est en traduisant qu'on comprend de quoi il retourne dans un poème. Hein. Tant qu'on n'a pas traduit, on reste à sa surface. Et le fait de pouvoir et de avoir envie, d'avoir le désir de vivre plusieurs vies en une seule, autrement dit, de se laisser aller à des schizes, hein, ça nous amène à Artaud, tout ça. Ça nous amène à l'idée que nous sommes plusieurs et que nous sommes des êtres contradictoires dans notre pluralité. Ça nous veut dire que, en quelque sorte, on cherche à se perdre dans l'art, à se perdre dans le langage. Et à s'y retrouver, bien entendu.
Alors, je vous propose d'écouter quelqu'un qui sait exactement qui il est, et vous verrez, c'est extrêmement simple. Il s'appelle Brian Gysin, « I am that I am ».«
I am that I am. I am that. I am. I am.
That I am. I am that I am. I am that am I. Am I that I am. Am I that am. I that I am am. Am that I. Am I. That I am I am. That am I am. That I am. Am I. That I am am. That am I. Am I. I that am am I. I that am am. I am I. Am that. I am. Am I that. Am I that I am, that I am, that I am, I am that I am, I am I that am, I am I that, I am that am, I am I am that, I am that, I am that I am, I am that, am I, am that I am that, I am that, am I, am that, I am I. That I am, I am. 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 That I am, I am.
Et vous avez entendu le soi, le l'être devenir innombrable grâce à cette première œuvre électronique de Brian Gazin que vous avez bien connu, Jean-Jacques Lebel, puisque nous parlons à l'instant de vous et de l'exposition, du montrage que vous faites avec Cécile Bargue au musée de Nantes sous le titre Archipel.
Oui, il faut quand même rappeler que c'est la parole du Christ qu'il explose et qu'il déploie. Et qu'il déplie, comme dirait Henri Michaud, il déplie comme un mouchoir à l'infini, et qu'il pluralise en quelque sorte, qu'il pulvérise et qu'il pluralise et qu'il vaporise dans l'espace de la pensée humaine.
Mais c'est vrai qu'on ressent cette vaporisation dans le poème.
Oui.
C'est effectivement, donc c'est un artiste que vous, c'est un ami
oui,
à vous.
Grand poète et grand plasticien, comme par hasard.
Donc l'un des artistes que vous avez rencontrés et que vous avez accompagnés au moment où ils étaient à Paris, puisqu'ils oui. sont très liés à la vie parisienne, lorsqu'ils étaient rue Gillecœur, non ?
9 rue Gillecœur. C'était l'hôtel le plus minable de Paris, le moins cher. Il avait.
S'il existe encore, il va être content.
Oui. Non, mais il a changé depuis, malheureusement. Il avait une toilette au rez-de-chaussée, et un téléphone et une douche pour tout l'hôtel. Et c'est là que Brian Gazin, dont on vient d'entendre la voix, et William Burroughs ont inventé le cut-up. C'est là que Allen Ginsberg a écrit un de ses chefs-d'œuvre, a commencé d'écrire un de ses chefs-d'œuvre, qui est Kaddish. C'est là que Gregory Corso a écrit Marriage, par exemple, le mariage. C'est là que Steve Lacy, le grand saxophoniste, a vécu. Archie Shepp y a vécu aussi. Chester Himes, le grand écrivain de polar. Enfin, c'était une sorte d'ambassade du psychédélisme inventif.
Ce que j'aime bien, et je pense que Cécile, vous avez dû avoir un grand plaisir à cela, c'est que chaque fois qu'on touche un personnage, il y a une constellation qui arrive. On oui. appelle ça le rhizome, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez ça dû être super, ça, non ?
C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que à Nantes, on pourra expérimenter, du moins j'espère, une sorte de traversée du XXe siècle par des sortes de chemins de traverse, en fait, puisque tout se connecte. Tout se connecte en dehors, et ça je trouve ça assez important de le souligner, en dehors de ce qui peut être le côté très fermé de certains mouvements. C'est-à-dire que là où parfois on peut présenter à la suite d'Ada le surréalisme, etc., jusqu'à la Beat Generation, et ensuite, c'est un faux cloisonnement, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui circulent. C'est finalement ça un petit peu le propos de l'exposition. De montrer ces énergies qui circulent entre les différents protagonistes.
Alors il y a une énergie quasiment radioactive qui est dans l'exposition et qui est une figure extraordinairement importante pour Gazin, Burroughs, Ginsberg dont on vient de parler, grâce à vous d'ailleurs, je pense, qui est Antonin Artaud. Et Emmanuel Lemire, vous êtes notre comédien aujourd'hui. Est-ce que vous auriez la gentillesse de tenter cette épreuve qui est de lire un texte d'Antonin Artaud ? Et c'est un texte qui a été publié pour la première fois, je crois, Jean-Jacques, dans Polyphonix, n'est-ce pas ? C'est-à-dire...
En 2000, le Centre Pompidou a fait une anthologie Polyphonix avec des textes et un disque et des inédits. et dont ce texte qui tient en une seule page, qui résume la psychose expérimentale d'Antonin Artaud.
Et l'explosion du langage que vous recherchez en permanence. Emmanuel Lemire, à vous.
My zoom going. Ebe. My zoom going. Eneitira ereibe. My zoom going. Antonin Artaud. Bowin tof game tinkbi. Je suis seul. Je n'ai jamais cessé de chanter en petit nègre. C'est une de mes langues principales. Je retrouverai les langues de toutes mes vies. Poyou popem, oyou pipou. Me suis-je tout à fait reconnu en français depuis que je suis reconnu? Quand je parle le mieux depuis 7 ans et que je donne mes ordres vrais, c'est en charabie. Jai zum pais eretibe. Cela ne m'empêche pas du tout de continuer à parler français tant que cela me plaira et de conserver toutes les victoires que j'ai remportées et que je remporterai maum kater kaifi tirme sur cette langue. Le jour viendra où je pourrai écrire entièrement ce que je pense dans la langue que depuis toujours je ne cesse de perfectionner comme venant de moi, par ma douleur.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et nous venons d'entendre une très belle lecture d'Emmanuel Lemire. Emmanuel vient de lire un texte d'Antonin Artaud, de juillet 1946, qui a été publié par Jean-Jacques Lebel et ses amis dans Polyphonix.
C'est très important, 1946, car c'est le moment où il est sorti de l'asile psychiatrique de Rodez, et qu'il a pu revenir à Paris. Et ce texte m'a été confié par Paul Thévenin, qui a passé 50 ans de sa vie à décrypter les manuscrits d'Artaud, car Artaud mettait sur la même feuille plusieurs couches d'écriture. C'était un enfer de décrypter ça. Il y a 28 volumes parus chez Gallimard, et ce texte, maintenant, en fait partie. C'est extraordinairement difficile de résumer en une seule page tout un voyage mental du côté du rhizome, n'est-ce pas ? Vous parliez du rhizome tout à l'heure. Il faudrait peut-être expliquer en deux mots de quoi il s'agit.
Dites-le.
C'est le contraire de l'enracinement, si vous voulez. On dit, n'est-ce pas, qu'il faut prendre racine, qu'il faut faire partie d'un territoire, d'un terroir. Et quand on est enraciné, on est prisonnier, on peut plus bouger. Les racines vous font que vous ne pouvez plus voyager. Vous êtes cloué sur place par les racines. Le rhizome, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des formes de racines qui, au contraire, s'étendent à l'infini. Par le haut, pas par le bas. Et vous permettent de bouger et de traverser l'espace, et donc de changer de territoire, de langue, d'identité. Le rhizome est ce qui vous connecte à d'autres réels que le quotidien. Et je crois que l'art, c'est précisément le travail du rhizome. Et Artaud, dans ce texte qu'on vient d'entendre, le montre bien. Il parle de deux langages au moins. Il pourrait y en avoir plus que deux, bien entendu. Mais là, il parle du langage qu'il a inventé, qui est un langage phonétique, un peu comme quand on écoute les radios dans langue étrangère qu'on ne connaît pas, hein, en tibétain, en sicilien, et tout se mélange quand on fait jouer la radio, n'est-ce pas ? Et il dit très bien aussi, mais si j'ai envie de parler français, je parlerai français tant que je voudrais.
Oui, c'est magnifique, ça, c'est
surtout
très émouvant.
À France Culture.
Ouais. Et oui, parce que bon,
le franchement... charabier, il a inventé le charabier, qui est très différent du charabia.
Bien entendu. Bon, France Culture a une histoire particulière avec Artaud, on n'aura pas le temps de la raconter, mais néanmoins, c'est très passionnant. Comme vous parlez du rhizome, je pense que pour Cécile, ça a été très important dans la mesure où c'est quasiment, pour vous, une méthode, non seulement une méthode de pensée, mais c'est aussi une méthode sentimentale et affective. Alors, avant que vous répondiez là-dessus, parce que l'amitié a un sens très très fort dans tout votre travail, je pense que l'exposition va le mettre en évidence, mais je voudrais reprendre ce que vous dites, avec les mots qui sont pratiquement les mêmes, vous allez le voir, de Deleuze et Guattari, le rhizome, Emmanuel Lemire, le rhizome.
Il n'est pas un multiple qui dérive de l'un, ni auquel l'un s'ajouterait, n plus 1. Il n'est pas fait d'unité, mais de dimension, ou plutôt de direction mouvante. Il n'a pas de commencement, ni de fin, mais toujours un milieu par lequel il pousse et déborde. Contre les systèmes centrés, même polycentrés, à communication hiérarchique et liaison préétablie, le rhizome est un système acentré, non hiérarchique et non signifiant, sans général, sans mémoire organisatrice ou automate central, uniquement défini par une circulation d'état. Ce qui est en question dans le rhizome, c'est un rapport avec la sexualité, mais aussi avec l'animal, avec le végétal, avec le monde, avec la politique, avec le livre, avec les choses de la nature et de l'artifice, tout différent du rapport arborescent. Toutes sortes de devenir. Un plateau est toujours au milieu. Ni début, ni fin.
Amis Jean-Jacques Lebel, Deleuze et Guattari, avec cette pensée sans autorité. Je pense que c'est quelque chose qui est très important dans votre vision. Est-ce qu'on le ressent, Cécile Barque, dans l'exposition ?
Absolument. Alors je dirais que le rhizome, ça se comprend par rapport à l'exposition de deux façons. C'est-à-dire que on a essayé autant que possible de connecter des domaines hétérogènes, qui est une caractéristique du rhizome. Bon, premièrement, deuxièmement, avec une vision absolument non autoritaire et horizontale. Horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie qui est établie entre les œuvres, les objets qu'on présente. On peut mettre sur le plan, strictement sur un plan qui est absolument d'égalité, un objet d'usage et une œuvre tout à fait connue, reconnue par l'histoire de l'art, par le marché de l'art, etc. Et des artistes.
Ce dont vous vous foutez complètement, d'ailleurs.
Absolument.
C'est très important,
et,
ça.
Et des artistes...
Ne pas céder.
Non.
Ouais.
Et des artistes qui
ne
sont...
Ne pas tomber dans les pièges.
Injustement méconnus. Je pense, ou insuffisamment reconnus.
Ou Nika Zourne, par exemple, que vous avez contribué comme ça à faire retrouver.
On peut aussi penser à Gerasim Luka, à Isabelle Valberg, qui est une figure...
Frédéric Pardot, à Daniel voilà. Pomerol... Il y en a des dizaines.
Que des merveilles. Je vous propose d'écouter une merveille rhizomatique dans son poème même, un ami de Jean-Jacques et de nous-mêmes, Bernard Hetzig.
Les gros vents, les Mébominis, les Illinois, les Tepions, les Aïhons, les Navajos, les Kansas, les Sioux, les Chicasso, les Canos, les Kiowas, les Homes, les Utes, les Humanos, les Chitamacha, les Nanas, les Totonacs, les Pima, les Nahuals, les Pincholts, les Lenga, les Semibol, les Mesquitos Matagalpa, les Jibaros, les Cunas, les Man, les Misuitos, les Tequiches, les Quatus, les Cavama, les Colorado, les Esquimaux Netos, les Arawak, les Paisos, les Guanigos, les Yamanas, les Carironas, les Caibans, les Panches, les Batellos, les Kedius, les Canaris, les Pébans, les Apolistons, les Kazibos, les Boros, les Jivaros, les Moros, les Etukios, les Lorenza, les Etonamas, les Caribis, les Gorani, les Keyubaros, les Chapacos, les Emara, les Yukiraros, les Matagalotsos, les Manchus, les Calapuyas, les Wits, les Yoraios,
des Pages, des Japonais, des Coréens, des Orphanats, des Apatrides, des Réfugiés, des Exilés, des Internés, des Déplacés, des Paumés, des Laissés pour compte, des Fuyards, des Intégrés, bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. 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 Et bien d'autres.
Tout autour de Vaduz, il y a non pas des nations, non pas des États, il y a des êtres humains, et ils ont des noms de tribus, mais ils ont aussi des noms de ce qu'ils sont, des délaissés, des abandonnés, et bien d'autres. On a presque les larmes quand on écoute ce poème. Jean-Jacques Lebel, je vous vois ému de la voix de cet ami, merveilleux, et poésie-action. Mais le politique, c'est très important aussi dans l'exposition, j'imagine.
Bien sûr, surtout si on on a le malheur de regarder la télévision de temps en temps, qu'on se rend compte qu'il y a en ce moment même des bombes qui tombent sur les hôpitaux, les écoles en Syrie, en Chine on met plus d'un million de Ouïghours dans des camps de concentration. Et le monde va très 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 mal, et de plus en plus mal d'ailleurs. Et heureusement que ces voix de la poésie et de la conscience cosmique dont Brian et Bernard et Artaud sont de très bons exemples.
Et Ginsberg.
Ginsberg continue, par leur absence physique même, d'être terriblement présent mentalement dans l'art. Et que je pense qu'il y a un mouvement brownien vraiment supra-individuel, supranational, supralinguistique, rhizomique en effet, qui continue à travers nous et bien au-delà de nous à faire que quelque chose est transmis d'un individu à l'autre, d'une génération à l'autre, d'une langue à l'autre. Et s'il n'y a pas ça, à quoi ça sert l'art, franchement?
Et Dieu sait que l'art que vous avez fait, et Cécile, vous pouvez peut-être nous en dire un mot, a été engagé, je pense, en particulier à un tableau qui a un sens très fort et qui est un tableau anticolonialiste, dont vous pouvez peut-être dire un mot.
Oui, bien sûr.
Tableau collectif, comme souvent avec Jean-Jacques Lebel, parce que, évidemment, l'agencement collectif d'énonciation, pour reprendre un terme que vous affectionnez, c'est tellement indispensable.
Alors, oui, la notion de collectif est centrale dans le travail de Jean-Jacques Lebel. Il faut bien comprendre que tout à l'heure, on parlait de happening, ce qui n'est pas forcément peut-être clair pour absolument tous nos auditeurs. Le happening a un fonctionnement collectif, c'est-à-dire que tous les participants participent à l'élaboration de l'œuvre, du résultat final. Bon, ce fonctionnement collectif remonte à très loin. Avant de répondre spécifiquement sur le grand tableau...
Vous avez le droit de faire des détours.
Voilà.
Par les barricades, peut-être.
Exactement.
Je me sentais venir. Oui. Je sentais la commune approcher.
Oui, puisque, en effet...
Ça sent la poudre.
Dans le fonds de dotation, la place des penseurs libertaires est fondamentale. Il y a un ensemble de documents, dont un autoportrait, qui sont relatifs à Louise Michel, d'autres figures de la Commune de Paris. Et bon, voilà, c'est un soulèvement collectif qui traverse dans la mémoire.
Louise Michel, c'est justement, écrivaine de haut niveau. Qui a traduit des contes kanak alors qu'elle était au bagne de Nouméa, et dessinatrice remarquable. D'ailleurs, le fond possède son seul autoportrait dessiné et d'autres dessins d'elle.
Magnifique. Ouais.
Remarquable, Louise Michel. Et bientôt, on va rééditer des lettres d'elle, et c'est bientôt l'anniversaire de la Commune. D'ailleurs, nous le fêtons toute l'année, cet anniversaire-là. Pardon de vous avoir interrompu,
oui.
Mais Louise Michel, ça déclenche de l'émotion à tous les coups.
Oui, donc en fait, l'idée même de travailler collectivement, y compris avec des personnes qui se définissent pas forcément comme artistes et politiques. Bon, alors, fin de la parenthèse si je peux dire, et maintenant je vais répondre plus spécifiquement sur le grand tableau antifasciste collectif, qui a donc été réalisé dans le contexte des antiprocès, qui sont des manifestations, plus que des expositions au sens étroit du terme, c'est-à-dire d'accrochage de tableaux. Ce sont des manifestations qui comportaient une partie de présentation d'œuvres, mais aussi des lectures, toutes sortes d'événements que Jean-Jacques Lebel a organisé avec Alain Jouffroy, donc en Italie et en France. Donc, les antiprocès ont consisté, dans le contexte d'une guerre d'Algérie qui ne disait pas son nom, puisqu'il ne faut jamais oublier la censure qui prévalait à cette époque-là, les antiprocès ont consisté à faire une sorte de soulèvement contre le colonialisme et la torture en Algérie. C'est dans ce contexte que cette œuvre collective a été élaborée. Qu'elle soit en prise sur son temps, c'est évident, mais je mentionnerai peut-être que dans les couches, dans l'épaisseur du tableau, se trouve donc le manifeste des 121, ou déclaration à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie.
Ce qui était grave. C'est-à-dire
un appel à la désertion, voilà. En quelque sorte.
Bien sûr. Mais
ce tableau a été saisi par la police italienne. Et resté, détrompez-moi, Jean-Jacques, c'est 25 ans, je
oui,
crois.
Oui, 25 ans, la Questura, c'est-à-dire la
préfecture. La Questura de Milan.
Pliée comme un mouchoir.
Et a fini par être sorti à force d'efforts de son enfer de la Questura pour être exposé et voilà présenté.
C'est un tableau qui fait 4 mètres sur 5, donc c'est pas facile.
Non, c'est pas facile.
L'arracher de son
châssis. Mais il a un sens très fort. On va écouter dans quelques instants un extrait, juste un court extrait du manifeste des 121, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est très important qu'on le fasse. Et je poursuivrai ce que vous dites, Cécile, si je vous comprends bien, c'est que c'est barricades auxquelles vous faites allusion sur la commune, qui sont elles-mêmes des œuvres collectives, on peut dire, hein, répondent à ce qu'est l'art pour Jean-Jacques Lebel aujourd'hui et que votre exposition manifeste. C'est aussi une barricade, c'est aussi une façon de faire ensemble des formes qui permettent d'inventer d'autres formes que ce que la société nous propose.
C'est un soulèvement.
C'est un soulèvement.
Comme on disait jadis à la Maison Rouge.
Je me souviens, je crois. Emmanuel Lemire, dites-nous un extrait de cet extrait du manifeste des 121, pardon.
Les sous-signés, considérant que chacun doit se prononcer sur des actes qu'il est désormais impossible de présenter comme des faits divers de l'aventure individuelle, considérant qu'eux-mêmes, à leur place et selon leurs moyens, ont le devoir d'intervenir, non pas pour donner des conseils aux hommes qui ont à se décider personnellement face à des problèmes aussi graves, mais pour demander à ceux qui les jugent de ne pas se laisser prendre à l'équivoque des mots et des valeurs, déclare. Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons justifié la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens opprimés, au nom du peuple français. La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres.
Ce texte, est intéressant peut-être de le rappeler, a été élaboré collectivement par un certain Maurice Blanchot.
Un auteur peu connu.
Oui, penseur à 16 heures, grand penseur, Dionis Mascolo, oui. Excellent écrivain, et Jean Schuster qui venait du surréalisme. Il a été d'abord signé par 121 personne, illustrissime, et la semaine suivante par une centaine d'autres. Et je l'ai mis dans le grand tableau, non seulement parce que je l'avais signé, mais parce que je pensais que cela éclairait le propos contre la torture, notamment de Djamila Boupacha par des parachutistes français portant l'uniforme français.
Dieu sait que ça a été aussi un des très grands sujets de votre travail ces dernières années, la lutte contre la torture.
Oui.
Je pense à votre travail sur Abu Ghraib en particulier.
Et oui, exactement. C'est-à-dire que c'est terrifiant à dire et à reconnaître que ça a empiré depuis 1960. Qu'aujourd'hui, et encore en ce moment même, la torture d'État pratiquée, par exemple, en Syrie, par le bourreau
Assad
et ailleurs, continue de faire florès. C'est-à-dire que nous protestons vigoureusement contre la torture, et non seulement on ne nous écoute pas, mais ça s'aggrave.
Alors il y a un poète qui intervient lui aussi autant qu'il le peut. Là, c'était l'affaire entre Saddam et Bush. Écoutons-le, Ginsberg.
We bomb, them, what do we do? We bomb, them, what do we do? You bomb, them, what do we do? We bomb, you, home bomb. We bomb you, home bomb, we bomb you, home bomb, you bomb you, home bomb, you bomb you. Why bomb? We don't want to bomb. 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 Who said bomb? Who said we had a bomb? Who said bomb? Who said we had a bomb? Who said bomb? Who said we had a bomb? Who said bomb? Who said we had a bomb? Who wanted a bomb? Somebody must have wanted a bomb. Who wanted a bomb? Somebody must have wanted a bomb. Who wanted a bomb? Somebody must have wanted a bomb. Who wanted a bomb?
Ça a été enregistré au Centre Pompidou au moment d'une exposition qui s'appelait Hors Limite, je crois, je me souviens, L'art et la vie. Et Ginsberg était revenu de Londres assez frais pour participer à cette lecture. Et il a été filmé à cette occasion dans le mouvement, le monument à Félix Guattari.
C'est émouvant d'entendre vos amis que vous aviez invités vous-même au Centre Pompidou, et effectivement dans ce monument. Dieu sait que le monument ne ressemble pas à ce qu'on imagine de vous. Et là, c'est un monument qui ne ressemblait pas à un monument à Deleuze et Guattari.
Le monument, c'est nous. Le monument n'est que le prétexte à une intervention collective dithyrambique.
Alors, est-ce qu'on peut revenir un instant sur Artaud pour deux choses? D'abord, vous avez accompagné Artaud, le son d'Artaud, en tout cas aux États-Unis. Donc, ce qu'on entend là est une sorte de conséquence d'Artaud. Mais j'imagine que dans l'exposition, Artaud est très présent, parce qu'il y a des installations, il y a des photos, il y a beaucoup de choses que vous avez rassemblées et organisées. Dites-nous, Cécile.
Oui. Il y a un ensemble de portraits d'Artaud qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet vraiment de saisir cette multiplicité, en fait, des personnalités dont on parlait tout à l'heure. Il y a un ensemble, voilà. Il y a une salle qui est consacrée à Artaud, et Artaud est une figure absolument centrale du fonds de dotation pour plein de raisons. Je dois dire que Jean-Jacques Lebel a beaucoup travaillé sur Artaud, a organisé plusieurs expositions qui lui ont été consacrées. Je pense notamment à Voltier Labyrinthi, qui avait lieu au PAC, à Milan, en Allemagne également. Et a réalisé une pièce que nous ne présentons pas à Nantes. Parce qu'en fait, à Nantes, Jean-Jacques a souhaité laisser la place à ses amis et aux œuvres qui sont dans le fonds de dotation, mais que je mentionne tout de même ici, qui est donc une reconstitution de la chambre où Artaud a subi un nombre effarant d'électrochocs à l'hôpital de Rodez.
On est encore dans la torture, là.
Voilà, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
C'est une œuvre très très importante pour vous. Vous l'aviez montrée à la Maison Rouge, me semble-t-il. Et donc, est-ce que ça vous embête, Jean-Jacques? Je voudrais, parce que nos auditeurs ont peut-être oublié l'intensité d'Artaud et aussi sa fécondité extraordinaire, qu'on entende un tout petit extrait de Pour en finir avec le jugement de Dieu, et c'est l'extrait qui a permis peut-être à Deleuze et Guattari de travailler sur le concept du corps sans organes. Écoutons cette ce bref extrait.
L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car lui et moi, si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organe, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté.
Extraordinaire radioactivité de sa voix, mais quelle lucidité aussi, hein.
Et il faut quand même rappeler que cet enregistrement était fait à la maison de la radio, à l'époque de Pierre Schaeffer, et que...
On peut dire que cette diffusion a été largement reportée.
C'est une commande de la radiodiffusion française, pour en finir avec le jugement de Dieu. Et l'émission faite, elle a été interdite. Elle n'est jamais passée sur les ondes. Il a fallu attendre mai 68 pour qu'enfin on déterre ce chef-d'œuvre absolu de la hauteur de pensée arthaudienne pour que on puisse enfin l'entendre et l'écouter. Une raison de plus pour faire la révolution, n'est-ce pas? C'est qu'on déterre les chefs-d'œuvre et qu'on leur redonne vie. C'est ce que nous essayons de faire à Nantes, mais pas seulement à Nantes.
Mais je pense que ce qu'on entend peu à peu et qui se dessine dans notre émission et qui est le fruit de votre vie d'artiste, si je puis dire, fait bien comprendre que ce que montre Cécile avec vous et que vous avez composé, inventé, est œuvre d'artiste. Parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre que il y a une cohérence organisée et que c'est au fond une géométrie pas du tout secrète, une géométrie très explicite qui se dessine dans l'ensemble de cette exposition que vous rassemblez, de ce fond que vous composez. Et en cela, c'est une composition. Ça vous choque que je dise ça,
Jean-Jacques ? Pas du tout, absolument pas. C'est le mouvement brownien qui continue, n'est-ce pas ? Nous ne sommes là que pour faire fonctionner ce mouvement brownien qui nous dépasse complètement et on accepte d'être complètement dépassé par les événements et par les sons et par les lumières. Et par les ondes.
Alors, à l'heure où nous parlons, l'exposition, donc nous enregistrons cette émission, l'exposition va être accrochée dans quelques minutes, si je puis dire. Nous allons l'ouvrir, on va être stupéfait, j'espère, de ce qu'on voit. Mais j'imagine que plastiquement, elle est très différente de ce qu'est une exposition. Il n'y a pas de corde à linge, il n'y a pas de côte à côte. L'espace n'est pas exactement équivalent entre chaque objet. Non, qu'est-ce que c'est, Cécile, racontez-nous.
Je dirais que c'est plutôt du point de vue des rapprochements entre les œuvres. En revanche, il y a tout de même quelque chose que je vais signaler. Donc, à l'heure où je parle, nous n'avons pas commencé à accrocher l'exposition, hein, que ce soit bien clair. Mais nous avons bien prévu une structure d'échafaudage à l'intérieur de l'espace du patio du musée d'art de Nantes.
Ce grand espace blanc de deux étages, splendide.
Un peu à
la
Quirico, avec des arcades, très beau. Donc, nous avons placé un échafaudage à l'intérieur qui reprend la structure, le volume même du patio sous une forme de réduction, mais en échafaudage. Et donc nous allons accrocher sur l'échafaudage. C'est une idée que nous avons beaucoup aimée parce qu'elle permet de faire passer cette idée que le fond est toujours en construction. C'est toujours sous forme de chantier, jamais définitif. Voilà. Et dans l'échafaudage sont réservées des sortes de niches, d'espaces où les œuvres peuvent communiquer entre elles et les regardeuses et les regardeurs peuvent multiplier les points de vue quasiment à l'infini. Il n'y a plus de mur. Voilà.
Excitant cette aventure, Jean-Jacques. Donc on attend avec impatience tous de le voir. Et je sais que vous ne seriez pas contre que, pour finir, nous écoutions encore un de vos amis. Vous pouvez peut-être en dire un mot avant que nous l'écoutions. Je pense à Gerasim Luka, cet immense poète que vous aimez profondément, et nous aussi.
C'est une douche poétique, n'est-ce pas? C'est celui dont Deleuze disait qu'il avait réinventé le bégaiement poétique, c'est-à-dire la destruction de la linéarité du mot et du vocable pour, comme d'ailleurs Brian Geisen et Bernard Heitzig tout à l'heure, et Ginsberg aussi, faire exploser les mots pour que en tirer tout leur jus. Voilà, Gerasim Luka.
Alors nous écoutons un extrait. Nous écoutons passionnément un extrait de Passionnément.
Pa 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 le pa pa le faux pas le pa 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 le pa le mot le mauve le mauvais pa 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 le pa le papa le mauvais papa le mauve le pa 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 passe pa pa passe passe passe, il passe, il papa, il passe, le pas du pas du pape sur le pape du pas du passe, 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 passe-le sur le pas, le passi, 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 pisse sur le pape, sur papa, sur le, sur la pipe du papa du pape, pisse en masse, passe, passe, passi, passe, passi, la passe, la basse, passi, passe, passi, la passio, passio, basson, le bas, le pas, passio, le basson, et pas, le basso, do, pas, 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 do, passe, passio, passion, do, ne do, ne domi, ne passi, ne dominez pas vos passions passives, ne dominez vos passions, vos si vos passionne dodo vos domino d'or, c'est dommage. Do pa pa ne domi pa pa passe. Passio vos pas ne do ne dominez pas vos passe. Passion vos pas vos pas dévorant ne do ne dominez pas vora. Pavora ne do dévorant ne do ne dominez pas vora.
Voilà votre ami Jean-Jacques Lebel, c'est très
notre
émouvant.
Ami.
Notre ami, absolument. Cécile Bargue, chère amie historienne, merci infiniment d'avoir suscité notre passion, comme dirait évidemment Gerasim. Et nous allons vous rejoindre donc à Nantes pour dans quelques jours pour voir la grande exposition dont le titre est
Archipel, fonds de dotation Jean-Jacques Lebel.
Merci infiniment Jean-Jacques Lebel.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu l'historienne Cécile Bargue et commissaire de l'exposition et Jean-Jacques Lebel pour leur exposition Archipel au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Vous retrouverez évidemment les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata. Lecture des textes, et c'était pas facile, merci Emmanuel Lemire. Prise de son Valérie Lavalla, réalisation David Travailleur. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay, son rayon BD. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.